Coup de sueur. Here we go. Dans le mid. This. Avec Pierre Coup de sueur. Et Nick Cloutier.
Radio X.
Ouais. La petite Claire-Belle retrouvée hier saine et sauve, ça relève du miracle, mais on aurait peut-être pu faire mieux là, parce que si maintenant tu déclenches l'alerte Amber,
oui.
Rapidement là.
Est-ce que tu la trouves plus tôt?
Ben moi je pense que oui.
Est-ce qu'elle a vraiment été tout ce temps-là
seule?
Dans un champ pas loin de la route? Ça, j'ai des doutes. Là,
il y a du monde qui disent qu'elle a peut-être été aidée. Ben, elle va peut-être parler aussi à un moment donné, là, mais elle a peut-être été aidée un certain temps. Puis là, ils ont vu, on va la relâcher.
Ben, moi, c'est le feeling que j'ai. À 3 ans, c'est pas autonome à 3 ans, zéro. Là.
Ça serait écrasé à terre, ben, elle a attendu deux jours, trois jours de temps.
Ça marche pas.
Quelque chose qui marche pas. En tout cas, regarde. L'alerte Amber, là, ben, tu sais, la fermière, là, il y avait une fermière, là, qu'on disait, là, une madame d'intérêt. Là,
qui l'aurait vue, là.
Dans le coin de Castleman, c'est ça?
Castleman.
C'est à 417 dans ce coin-là. Oui. Ben, peut-être qu'elle a relevé un flag.
Ben, c'est Saint-Albert où ils l'ont retrouvé. T'sais, t'as Saint-Albert, t'as 417, l'autre bord, c'est Cassonne.
C'est francophone dans ce coin-là. Hein?
Oh, c'est franco. Ben, c'est très proche du Québec. Là. C'est collé. Là.
Oui, oui. Oui, quand tu t'en vas à Ottawa, là, tu longes la 417. Voilà notre invité, il est là, Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Monsieur Gagnon, comment allez-vous?
Très vous-même.
Oui, ça va bien. Ottawa, ça va bien aussi. Là. Les déficits s'accumulent, pas de budget de présenté. Et là, on nous dit, hier, je ne sais pas si d'où ça sort encore, là, s'ils ont eu le mémo, mais on va continuer, on va avoir des voitures à essence jusqu'en 2035, puis après ça, c'est terminé.
Bien, effectivement, il faut se rappeler que depuis 2022, le gouvernement fédéral a mis en place son propre règlement là, pour interdire les nouvelles voitures à essence et au diesel pour 2035, un peu à l'instar de ce que le Québec a décidé lui-même de son côté. Puis au fédéral, ben, en fait, ce qui s'est passé à l'Assemblée, plutôt à la Chambre des communes hier, c'est qu'il y a eu un vote qui a été proposé, c'est une motion qui a été déposée par la députée Melissa Lanceman du Parti conservateur du Canada, justement pour demander au gouvernement fédéral de renverser sa décision à cause du fait qu'il y avait beaucoup de pression par rapport au marché des voitures électriques. Comme on sait présentement, il y a des gros ralentissements, il y a des pays ou des États comme mettons les États-Unis qui se détournent beaucoup de cet objectif-là, notamment sous l'administration Trump. Et essentiellement, c'était de rappeler que voilà, la réalité régionale, la réalité du territoire canadien puis de notre économie, ça ne permet pas nécessairement d'avoir les moyens pour ce genre de transition-là accélérée. Et malheureusement, ben la motion a été battue. La très grande majorité des députés autres que les conservateurs ont tous voté contre la motion pour qu'on maintienne le cap vers cet objectif-là. Il faut rappeler que comment ça fonctionne, cette fameuse interdiction des voitures à essence, c'est que on impose des quotas aux distributeurs, mais pas aux distributeurs, aux concessionnaires et aux fabricants. Et donc, à partir de 2026, c'est 20% des voitures qui seront vendues, qui devront être électriques. Et en 2030, on parle d'environ 60% pour finalement atteindre 100% en 2035. Essentiellement, les concessionnaires, les fabricants ont des crédits. C'est-à-dire que pour l'instant, si jamais ils n'atteignent pas leur cible, ben ils peuvent compenser par exemple, s'ils vendent 100 véhicules dans une année, par exemple, et qu'ils en vendent juste 19 électriques, ben ils vont utiliser un crédit pour compenser le véhicule électrique qui n'aura pas été vendu dans leur quota. Mais éventuellement, ils n'auront plus de crédit et donc vont être pénalisés à avoir des amendes s'ils vendent des voitures à essence sur le long terme. Donc, tout ça pour dire que malgré tout ce qu'on connaît, malgré toutes les difficultés que connaissent l'industrie des voitures électriques, le Canada maintient le cap. Même chose pour le Québec. Et même ce qui me fait rire, c'est que le Québec, ses objectifs sont encore plus sévères que ceux du Canada. Parce que nous, à partir de 2026, c'est plutôt 32,5% des voitures qui seront vendues qui doivent être électriques. Puis en 2030, au Québec, c'est 85%. Donc, c'est assez énorme. Et ça permet aussi de faire un rappel que même si, mettons qu'on avait un réveil de la part de François Legault à Québec par rapport à cette interdiction-là, on serait quand même soumis à l'interdiction fédérale.
Oui, c'est ça.
En vigueur aussi pour 2035.
C'était ma prochaine question. Donc, c'est le fédéral qui va avoir le gros bout du bâton là-dessus. Mais il me semble qu'ils n'ont pas eu le mémo là, aux États-Unis. C'est autre chose. Là. On est en train d'enlever ça. On enlève les aides financières aux batteries, aux producteurs de fabricants de batteries. Là, ça veut dire qu'ici, on va continuer à subventionner les fabricants de voitures électriques. On va être les seuls peut-être à fabriquer à grande échelle des voitures électriques. C'est ça, c'est l'avenir, c'est ça, là?
Ben, c'est un peu ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on dirait que le Canada va faire évidemment cavalier seul dans ce dossier-là, puis qu'on va peut-être, on espère sauver la planète par nous-mêmes en se disant que c'est vraiment ça l'ultime solution. Ben oui, quand on voit, par exemple, les États-Unis ne plus s'aligner du tout sur cet objectif-là, et même la Californie qui pourrait être forcée d'annuler sa propre interdiction pour les voitures à essence en 2035 suite à une décision du Sénat, ça fait en sorte que, oui, on serait complètement isolé, puis c'est pas comme si on en avait non plus les moyens. En plus, il y a des discussions présentement pour être en mesure de ramener la fameuse subvention fédérale pour l'achat des voitures électriques. C'est quand même pas loin de 5 000 $ par voiture, et même que certains présagent que ça pourrait être plus généreux que l'ancien package. Essentiellement, si c'est plus que 5 000 $, on a hâte de voir c'est quoi le montant. Mais c'est dans le but d'inciter les gens à acheter, mais il faut se rappeler que cet argent-là, ça vient quand même des contribuables. Donc, il y a vraiment des contribuables qui payent pour que d'autres puissent acheter des voitures électriques. C'est complètement injuste. Et c'est pas comme si on avait, quand on regarde les finances publiques fédérales présentement, les moyens de ce type d'ambition-là. Puis même, il n'y a pas juste des subventions tant aux voitures électriques qu'aux fabricants. Il y a aussi le fait que, ils mettent en place tout un réseau électrique pour les recharges, par exemple, puis pour produire l'électricité qui va être nécessaire pour recharger ces véhicules-là. C'est pas donné. Il y avait une étude qui a été publiée par Ressources Canada l'année dernière qui démontre que d'ici 2040, ça pourrait coûter jusqu'à au moins 300 milliards de dollars pour être en mesure justement là, d'assurer toutes les dépenses d'infrastructure pour l'électrification et pour être en mesure justement de supporter dans le fond l'effort pour les voitures électriques d'ici 2035.
Bon, là, on n'a pas de budget déposé à Ottawa. L'année financière qui s'est terminée le 31 mars 2025, le déficit, on ne l'a pas, on n'a aucune idée. Et on continue là à dépenser de l'argent. Encore là, cette semaine, Mark Carney, le G7, a annoncé de l'aide à l'Ukraine, 4 milliards. Ça revole. On peut s'attendre à un déficit de la dernière année de quoi? Là? On était à 62 milliards l'an dernier. Cette année, ça va être quoi? 80, 100 milliards?
Oui, puis 62 milliards l'année dernière, puis il faut se rappeler, il y a eu un paquet de choses qui s'est passé depuis l'année dernière. Il y a eu, entre autres, la guerre commerciale, ça, c'est un contexte qu'on a plus ou moins le contrôle là-dessus, puis c'est supposé quand même avoir ramené certains revenus au gouvernement à travers leurs propres tarifs. Mais ils ont quand même, il y avait dans leur projection la hausse de l'impôt sur le gain en capital, ça a été retiré. Il y avait les taxes sur le carbone, ça a été suspendu, c'est plus applicable. Il y a eu aussi des congés de TPS durant le temps des fêtes, on se souvient, qui a quand même privé le gouvernement fédéral d'un peu de revenus.
Oui.
En plus, il faut rappeler que tout récemment, on annonce le 9 milliards de plus pour l'armée pour être en mesure d'atteindre l'objectif de 2% du PIB pour la défense nationale, ce que je considère quand même qu'il est un bon coup malgré l'état des finances présentement. Fait que moi, je suis persuadé que le déficit sera supérieur à 62 milliards cette année. En fait, on était supposé être aux alentours de 40 milliards. Et ça, c'est en condition qu'on change absolument rien dans ce qui a été prévu par Justin Trudeau dans son dernier budget. Donc, honnêtement, je sais pas à quoi ça va ressembler, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va s'attendre à ça de pied ferme cet automne. Et je m'attends à ce qu'il y ait une réaction quand même là, des agences de notation, notamment là, par rapport à l'état de ce budget-là. Parce que s'il est beaucoup plus déficitaire que prévu, on sait déjà que l'agence Fitch avait envoyé un avertissement à Mark Carney dès son arrivée au gouvernement, dès son élection, en le félicitant, mais en disant aussi que l'application de ses politiques fiscales pourrait justement mener à une décote du Canada. Puis on a même eu un avertissement de la part du directeur parlementaire du budget dans les dernières semaines plutôt, où est-ce qu'il disait carrément que pour financer toutes ces baisses d'impôts, ces promesses de dépenses, il va falloir faire des coupures, notamment dans la fonction publique. Donc on a hâte de voir si ça va être livré cet automne, parce que s'il n'y a rien de ça qui est fait, effectivement, on va être dans le rouge pour pas mal plus longtemps.
Oui, là, 62 milliards, ça, c'est l'an passé. L'année qui s'est terminée au 31 mars, on le sait pas, peut-être 80, peut-être 100 milliards. Mais là, la nouvelle année en cours, là, on baisse les impôts au 1er juillet. Hein? On a des baisses d'impôts là, qui arrivent. Aussi.
Oui, des baisses d'impôts, toute baisse d'impôts, on va célébrer ça, entendons-nous, mais de l'autre côté, faut dire que sur les 5 prochaines années, ça va quand même priver le gouvernement fédéral d'environ 28 milliards de dollars en termes de revenus. Ce qui est une bonne chose, c'est 28 milliards de dollars qui vont rester dans les poches des contribuables. Mais on a appris une petite nouvelle, parce que le directeur parlementaire du budget, moi j'apprécie beaucoup son travail à Ottawa, parce qu'il permet justement de faire la lumière puis de dire un peu plus, de donner plus d'informations que ce que le gouvernement nous révèle notamment. Et on a appris que la baisse d'impôts va être un peu moins généreuse que ce qu'on pensait.
Ah oui, diable dans les détails, hein?
Ben oui, parce qu'on nous disait une baisse d'impôt de 1% ou de 1 point de pourcentage sur le premier palier d'imposition. Donc, on passe de 15 à 14. Sauf que, Nous, on s'était fait dire que ça allait représenter environ 800 $ par famille ou environ 400 $ par personne. Donc, tout le monde appréciait cette annonce-là. Puis finalement, ben, on a découvert que ça va être beaucoup moins que ça. En fait, pour atteindre 800 $ d'économie, il faut vraiment faire partie des paliers, ou du moins avoir les revenus les plus élevés au pays pour être en mesure d'en profiter. Et il y a beaucoup de personnes, notamment les aînés, qui vont profiter plutôt d'une baisse d'impôts moins généreuse. Donc, on parle pour un contribuable moyen, là, en 2025, l'économie, c'est environ 90 $ sur ses impôts. Puis pour une famille, là, on parle d'environ 190 et 280 $ là. Donc, c'est sûr que, je veux dire, une baisse d'impôts, comme je vous dis, on va la célébrer, mais on s'était fait promettre beaucoup plus que
ça. Oui, bien, on parlait de 400 $ par contribuable.
Ben exactement. Puis cette année, ça ne baisse que de 0,5 points de pourcentage. Donc, on passe de 15 à 14,5.
Ah, okay.
Et l'année prochaine, on va descendre à 14%. Okay, okay, okay. Sauf que moi, ça me dérange un peu parce que il y a tellement de mauvaises nouvelles qui pourraient survenir d'ici l'année prochaine. Comme on disait, le fameux budget, il risque d'être présenté cet automne, puis on va être à l'encre rouge. Peut-être qu'il va y avoir des gros changements de cap qui vont suivre et qui vont justifier le fait que finalement on recule sur des baisses d'impôts. Et c'est un peu comme François Legault, là. Je veux dire, François Legault, au Québec, là, en 2022, il promettait des baisses d'impôts de 2,5 points de pourcentage sur les deux premiers paliers d'imposition. Il a juste livré un point de pourcentage en 2023.
Oui.
Puis là, on se demande si ça va être où sa marge de manœuvre pour les autres baisses d'impôts, parce qu'il y en a toujours pour parler. Ça n'a pas été budgété non plus dans aucun budget.
Ben non, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Il y a des milliards, des quoi, 13,6 milliards de déficit. Puis à 2029-2030, il manque de l'argent là, à l'horizon.
Exact. Donc, ça risque d'être une promesse brisée. Puis ça, quand je regarde les dernières projections de Québec 125, c'est pas tout à fait le genre de choses qui devrait célébrer de son côté. Mais à la fin, c'est ça. C'est à se demander, est-ce que l'état des finances publiques va forcer un recul par rapport aux promesses qui ont été faites? On espère que non, parce qu'à la fin, les contribuables méritent ça. Faut rappeler la pression inflationniste, l'état de l'économie. Je veux dire, les gens méritent d'avoir un peu plus d'argent dans leur poche.
Oui.
En contrepartie, on mérite tout d'avoir un gouvernement qui fait le ménage dans ses finances puis qui gère ça mieux que ce qu'on voit présentement.
Ouais. Ben voyons. Mais ça, c'est la dette. Déficit, là, c'est un quoi, 1300, 1400 milliards. Mais ça, c'est la dette. C'est pas grave.
Oui, c'est les prochaines générations qui vont payer.
Ben, rien là. Voyons donc.
Ben, en fait, on dit ça, mais en réalité, on en assume déjà le coût parce que la dette du Canada, présentement, nous coûte pas loin de 50 milliards par année en intérêt seulement.
En intérêt?
Donc, oui, donc le fait de l'avoir doublé ou quoi les dernières années, on dit souvent, si on met de l'argent sur la dette, c'est la prochaine génération de contribuables qui va assumer le coût. Mais dans notre cas, on a tellement accéléré l'endettement du Canada qu'on assume déjà le coût de l'endettement. Puis au Québec aussi, éventuellement, là, comme présentement, c'est 9,7 milliards qu'on paye en intérêt sur la dette du Québec. D'ici la fin de la décennie, c'est 12 milliards par année qu'on va payer en intérêt. Donc clairement, autant au fédéral qu'au provincial, la perte de contrôle des finances publiques, ça nous coûte cher.
Ouais. Toi, tu suis beaucoup le travail du directeur parlementaire du budget à Ottawa, et qui est très utile hein, dans ces périodes de noirceur-là, parce qu'on ne veut pas dévoiler de budget. Là. Et lui, il devrait arriver bientôt avec un document où on aura peut-être les déficits à jour. Là. Mais toi, est-ce que tu crois qu'un directeur parlementaire du budget à Québec serait utile aussi pour essayer d'éclairer les citoyens d'où l'argent va?
Oui, je ne pourrais jamais dire oui à cette affirmation-là pour plusieurs raisons. D'ailleurs, on en a fait un combat à la Fédération. On a fait autant de la pétition qu'une pétition que de la pression sur l'Assemblée nationale pour que ça se fasse. On sait aussi que même la Coalition de Québec, là, jusqu'en 2019, était en faveur de mettre en place un poste de directeur parlementaire du budget. Ils le demandaient eux également quand ils étaient à l'opposition. C'est juste que là, malheureusement, ben on dirait qu'avec le temps, ils se sont désistés de cette proposition-là. Mais pour venir à ça, il n'en reste qu'un directeur parlementaire du budget. Qu'est-ce que ça mange en hiver pour le commun des mortels? Là? C'est essentiellement pas un arbitre, mais plutôt un observateur neutre qui est là pour s'assurer de donner leur juste sur l'état des finances, sans passer par un biais un peu plus politique quand on est un ministre des Finances, donner leur juste défaut. On joue avec les mots, comme on l'a vu.
Mais il a accès aux chiffres. Lui, il a accès aux vrais chiffres. Là. Alors, c'est pas le politicien qui essaie de nous bourrer avec l'argent des autres. Là.
Exact. Puis il peut aller aussi loin que la vérificatrice générale. Donc, fournir des rapports qui nous donnent un peu plus leur juste, comme notamment, là, on vient de parler de la baisse d'impôts fédéral. Elle est moins généreuse que ce qu'ils avaient été promis durant les élections.
Ouais.
C'est grâce au directeur parlementaire du budget, si on le sait, cette information-là.
Ben oui.
Et au Québec, ben, ça pourrait être utile pour plusieurs dossiers qu'on a vu passer au cours des dernières années. Ça aurait été le fun d'avoir le directeur parlementaire du budget sur le dossier de Saclic ou sinon sur le dossier du fameux toit du Stade olympique qui risque de coûter plus qu'un milliard. Donc, il y a des dossiers de même ou même sinon...
Northvolt, toutes les aides financières qu'on donne à une puis à l'autre puis qu'on sait même pas où va l'argent, là.
Ben, le plus ironique là-dedans, c'est justement Northvolt. Si on sait finalement que le retour, ben, parce qu'à la base, on pensait que ce projet-là allait se faire, là, c'était ça qui était promis. Puis quand on nous l'avait promis en 2023, on nous disait que le retour sur investissement pour les contribuables arriverait après seulement 10 ans. Et puis, il a fallu que ce soit le directeur parlementaire du budget à Ottawa qui corrige le tir en disant non, ça va prendre plutôt aux alentours de 15-20 ans. Fait que c'est plus long avant que les contribuables aient un retour. Fait que si on avait eu un autre propre directeur parlementaire à Québec, ben peut-être que ça aurait permis d'avoir l'heure juste avant que le fédéral se pointe dans le dossier. Fait que c'est le genre de choses à laquelle ça pourrait servir, surtout quand on voit la manière que les dossiers sont gérés présentement à Québec avec tous les dépassements de coûts puis la perte de contrôle sur les finances publiques.
Ouais, Nicolas Gagnon, Fédération canadienne des contribuables, merci beaucoup de tes lumières. Au plaisir de se reparler prochainement.
Ben, c'est toujours plaisir. À bientôt.
Salut. Voilà. Ben oui, directeur parlementaire du budget, t'es d'accord?
Oui. Ben non, c'en est un qui est fiable. Puis les dernières années, il a été très critique, entre autres des dépassements et des dépenses de Trudeau.
C'est parce qu'on peut savoir, on a accès aux chiffres. Lui, accès aux chiffres.
Oui. Sur la taxe carbone, il nous donnait d'ailleurs les vrais chiffres. Bon, les médias les rapportaient mal, mais en tout cas, nous donnaient les vrais chiffres.
Ben, il y a ça aussi, là.
Oui.
Mais à Québec, on aurait besoin de ça. Un gars indépendant qui connaît les chiffres puis qui est capable d'avoir accès puis sans se faire remplir, parce que les politiciens veulent nous remplir, là.
Je vais leur donner, si je me rappelle bien, c'est les libéraux, avec Monsef Derragie, entre autres, qui faisaient cette proposition-là d'avoir un directeur du budget à Québec.
Ah oui, ça serait logique.
Ça serait un must.
Après la pause, on ouvre les lignes, Dom.
Yes.
La question.
Pour qui vous allez voter, élection municipale?
Ben oui.
Puis je lance juste comme ça.
Êtes-vous indécis?
Êtes-vous indécis? Et il y a eu une proposition qui a été faite par un auditeur ce matin lorsqu'on a ouvert les lignes dans Montréal Live qui a dit « Votez Sam Ahmad à la mairie et votez pour... »
Respect citoyen.
Respect citoyen comme conseiller municipal, ça serait peut-être une bonne option.
Ben c'est un peu ça au municipal, hein? On vote pour les personnes.
Oui. C'est le seul, c'est le fun, ça, honnêtement, là. C'est le seul palier où tu peux diriger pour le grand boss et après ça, toutes les autres autour qui peuvent servir de chien de garde.
Et lui.
Puis tu peux voter de deux bords différents.
Exact, exact. Donc ça amène une dynamique nouvelle aussi parce que si tu donnes les clés à une gang, t'es barré pour
tu donnes pas carte blanche nécessairement, là.
Ouais.
C'est comme, mettons, au provincial avec la CAQ, par exemple.
On revient après la pause.
Couture dans le mid.
Radio X.